René Frény signait son dernier livre à la librairie Jaubert de Riez.
Samedi dernier à Riez, la librairie d'Aline et Pascal Jaubert accueillait l'écrivain manosquin René Frény pour une matinée de dédicaces à l'occasion de la sortie de son 15e ouvrage publié chez Gallimard, « Je me souviens de tous vos rêves ». Ce roman très personnel nous propose de partager les itinéraires de personnes ordinaires dans un moment extraordinaire, la chute. C'est avec une grande justesse, une écriture précise, à l'émotion sans effet, que sont évoqués ces personnages qui tombent et se relèvent, comme ce chat du quartier des condamnés à mort au Baumettes, ou bien le fondateur d'une célèbre librairie, mais également l'auteur lui-même parmi les acteurs d'un tribunal au cœur d'une affaire sans fin, ou encore une femme admirée et aimée. Chacun lira dans et entre les lignes. Parcourant la campagne manosquine, René Frény raconte l'écriture, la lumière, les bonheurs d'un paysage, l'amour, l'injustice, la beauté et la monstruosité. Il répond aux questions d'Olivier Mouly.
Je me souviens de tous vos rêves. Tout d'abord ce titre.
J'ai observé autour de moi, ici dans la région, des personnages comme Joël Gattefossé, le libraire de Banneau, un homme que j'ai rencontré dans les champs, qui traquait les souvenirs de tout ce que nous jetons, une femme dans la pièce à côté, et mon chat, surtout mon chat, que j'avais trouvé au cœur des Baumettes, dans le quartier fermé des condamnés à mort, là où j'allais travailler à l'époque. Et il était tombé d'un toit, je l'ai ramassé, il avait 3 jours, et il est tombé d'un toit, 10 ans après, et il est mort. Et toutes ces silhouettes, ces personnages, même mon chat qui est devenu un personnage, j'ai voulu retracer un peu leur itinéraire, leur vie. Donc c'est l'histoire de quelques silhouettes qui sont au bord du vide, certaines tombent, d'autres pas, et ces itinéraires très particuliers, ce que Giono aurait appelé des âmes fortes, mais des âmes fortes qui à un certain moment basculent et chutent, et j'ai voulu les montrer au moment de leur chute.
Vous avez suivi un enseignement scolaire assez bref.
Chaotique et bref. Non, je n'y voyais pas, je l'ai dit 100 fois, mais c'est vrai, je n'y voyais rien. J'avais jeté mes lunettes, les enfants se moquaient de moi à Marseille. J'ai été terrorisé par l'école, j'avais très peur qu'on m'interroge. Donc, je taillais l'école, comme on dit à Marseille, je n'y allais jamais. J'allais regarder les pêcheurs sur le Vieux-Port. Dès qu'il faisait beau, je me baignais sous le Fort Saint-Jean. Je rentrais à l'œil au cinéma, comme tous les garnements. En troisième, j'ai tout arrêté. Je suis allé travailler, je n'ai pas fait d'études. Les études, je les ai faites à partir de 19 ans, quand j'ai remis des lunettes, quand j'ai eu le courage de mettre des lunettes. Et là, j'ai lu des milliers de livres et je me suis mis à écrire de la poésie. Mais j'avais un retard colossal, notamment en grammaire. Mais je me suis rendu compte que l'émotion pesait plus que la grammaire. Et j'ai développé toutes mes émotions, cette musique qui sort de l'émotion, plutôt que le point-virgule.
Si je vous parle de l'école, c'est parce que vous commencez chaque mois de septembre avec un cahier. Vous avez fait votre vie presque sur un timing scolaire.
Sur un calendrier scolaire, mais c'est parce que il fait très chaud chez moi en juillet-août, je peux pas écrire, je transpire trop, je suis sous les toits à Manosque, donc le cagnard plombe mon appartement. Et en septembre, ma fille que j'ai élevée rentrait à l'école, et quand elle entrait à l'école, moi j'entrais dans mon cahier, nous entrions tous les deux en écriture, et puis j'écrivais tout l'hiver jusqu'au mois de juin, puis on partait en vacances. Donc j'ai été rythmé pendant des années par la scolarité de ma fille, et puis parce que sous les toits, il fait trop chaud pour écrire l'été.
C'est une façon aussi de s'obliger à travailler, peut-être.
Oui, c'est aussi une manière de se dire, tiens, les rivières, le bain de mer, les voyages, c'est fini. Maintenant, c'est septembre, on se remet sur son cahier. Il faut un minimum de rigueur. Moi, je ne suis pas très rigoureux. C'est plutôt l'inspiration, le voyage intérieur, les souvenirs. Je ne suis pas très rigoureux pour le travail. Quand vraiment j'ai peur de mon cahier, je n'écris pas. Et souvent, mon cahier me fait peur. Mais j'aime bien ce minimum de rigueur, se dire, en septembre, on ouvre un cahier neuf et on démarre un voyage.
Vous parlez beaucoup des petites gens.
Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui n'ont pas de grand destin, qui ne sont pas des héros, qui ne sont pas extraordinaires. Et pourtant, ils portent tous leur roman, le roman de leur vie. Moi, je m'intéresse aux gens ordinaires. Et dans ce roman, tous les gens que j'ai côtoyés sont des gens comme moi, des gens qui vivent ici, qui n'ont pas de grand destin. Comme dit Hitchcock, les gens extraordinaires ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens ordinaires à qui il arrive un jour quelque chose d'extraordinaire. C'est le départ de chaque roman, des gens ordinaires à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Comme Joël Gattefossé, le libraire de Banneau. surtout pas de romans idéologiques, surtout pas de vérité. Je n'ai jamais trouvé la vérité. Je la cherchais à 20 ans, je la cherchais à 25 ans, je la cherchais à 30 ans. Et puis je ne l'ai plus cherchée parce qu'il n'y a pas de vérité. Cette phrase me plaît. Je crois que c'est Nietzsche qui dit « L'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, c'est la conviction ». Voilà, moi je n'ai pas de conviction parce qu'il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la vie, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est la sensualité de la vie. Voilà, la sensualité de la vie. C'est ce que je cherche tous les jours. Mais surtout pas une vérité philosophique ou politique, ça n'existe pas. On change chaque jour, le monde est différent de ce qu'il était hier, et je suis moi-même différent de ce que j'étais il y a une heure quand je suis arrivé à Ries.
Vous parlez de votre chat, ça a failli être le titre de votre roman.
Chat qui tombe. Je voulais faire, parce que il est resté 10 ans avec moi. Il était tombé d'un toit au cœur des Baumettes. Les détenus m'ont dit, il y a 3 jours qu'il gueule. Il n'avait que 3 jours. Il était tombé du toit. Et je l'ai ramassé. Je l'ai ramené chez moi. Il est devenu le chat de ma fille d'abord, puis mon chat. Et pendant 10 ans, il a joué par terre avec ma fille. Il a dormi avec ma fille. Il a mangé avec ma fille. Et quand elle est partie à Montpellier faire des études, il était tellement seul qu'il est tombé du toit, 14 mètres, hein, j'habite au 4e étage, et il est mort. Donc il a eu un destin très particulier. Il est né en tombant, il est mort en tombant. Et pour oublier ce chat, je me suis dit, si je reste là, je vais le voir partout. Jules Renard dit, les chats sont la vie des meubles. Donc, ils font vivre les meubles et ils font vivre nos appartements. Et mes meubles sont devenus brusquement immobiles. Ils ne bougeaient plus, le chat n'était plus là. Donc, j'ai pris un billet de train, je suis parti dans le Jura, à Besançon. J'ai marché pendant 15 jours dans ces 3 départements, la Franche-Comté, enfin, en Franche-Comté.
Vous parlez aussi à la fois des Baumettes, de votre expérience au Baumettes d'écriture et une expérience plus personnelle au tribunal également.
C'est un peu l'un qui a entraîné l'autre. J'ai travaillé 20 ans au Baumettes, je me suis fait quelques relations là-bas. J'étais professeur de lettres, j'animais des ateliers d'écriture. Et donc j'ai connu pas mal de voyous, que certains sont devenus des copains. L'un d'eux en sortant m'a rendu service. J'ai ouvert un restaurant avec lui et là j'ai fait une erreur bien sûr, d'ouvrir un restaurant. J'ai cru que le gars s'était rangé, malheureusement c'était pas le cas. Et j'ai eu 10 ans d'embêtement avec la justice, un engrenage épouvantable. En plus, je suis tombé sur un juge qui voulait se faire un écrivain. Enfin, il voulait surtout se médiatiser. Et pendant 10 ans, il m'a fait arrêter, descendre à l'évêché avec des menottes, interroger. Ça a duré 10 ans. Puis j'ai été jugé. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un bon président à Digne, un bon procureur, qui m'ont relaxé avec les excuses de la justice. Je suis devenu très ami avec le président. On fait de l'avion ensemble. Voilà tout l'itinéraire de ce qui m'est arrivé. Je tombe sur un mauvais juge qui veut se médiatiser et qui me roule dans la farine pendant 10 ans. Et puis je tombe sur un bon président, un autre juge. Donc comme quoi la justice française, c'est pas quelque chose d'immobile, c'est quelque chose qui est fait par des hommes. Vous pouvez tomber sur le meilleur et sur le pire. Je suis tombé, moi, sur les deux. Le pire d'abord et le meilleur ensuite.
L'occasion d'une de ces sessions, vous parlez de la société de mots dont sont exclus ces fameuses petites gens.
Oui, c'est un monde de mots, de culture, de codes, c'est un réseau. Ils ont fait les études ensemble à Bordeaux, certains sont devenus magistrats, d'autres sont devenus avocats. Bon, ils emploient les mêmes mots et les gens qu'ils jugent sont exclus de ce monde de mots, de ce monde d'intelligence, de culture. La plupart des gens qui passent devant un tribunal, dans un palais, ce sont les derniers palais, hein, parce que bon, maintenant, il n'y a plus de palais. Il n'y a plus que des palais de justice. Donc, vous entrez dans un palais avec des colonnes de marbre, vous êtes déjà écrasé par le monument. Et ensuite, vous êtes écrasé par les mots, le mot du procureur, les mots du président, les mots des avocats. Et tous ces gens sont dans des robes noires, dans ce décorum, avec des mots que vous ne comprenez pas. Enfin, moi, oui, mais le petit voleur ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. S'il est voleur, c'est qu'il n'est pas allé à l'école, il a 200 mots à sa disposition, et il n'entend que des mots et des codes qu'il n'a jamais entendu, dont il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, il y a 2 mondes qui se côtoient dans ce palais. Les uns vont en prison, les autres rentrent chez eux et puis vivent dans un monde de mots. Et ces deux mondes qui se jugent l'un l'autre ne se côtoient jamais. Donc il y a opposition terrible, terrible entre ces 2 mondes, celui de la justice et celui du justiciable. Là, j'ai repris un polar. Là, il y a dans le livre que je suis en train d'écrire, j'en ai écrit les deux tiers. Il y a une intrigue, un suspense, un mystère, il y a des rebondissements. On est dans le polar. Là, dans Je me souviens de tous vos rêves, on est uniquement dans l'écriture. C'est une écriture sur la lumière, sur les saisons, sur la tendresse, sur l'amour. C'est une réflexion sur la vie, avec une inquiétude de devoir disparaître, mourir. Et quand j'écris, j'oublie que je suis mortel. J'ai tellement de plaisir à écrire. On crée la vie quand on écrit. On ramasse des mots autour de nous, dans les villes, dans la campagne, quand on marche. On ramasse des mots, on rentre chez soi et on fait son miel avec tout ce qu'on a ramassé au bord des routes et des chemins. Et au moment où on réinvente le monde, on est immortel. On a de telles émotions qu'on vit deux fois. Une première fois dehors, quand on marche, quand on vit, quand on boit un café, et une seconde fois quand on recrée le monde avec des mots. Donc on est un peu immortel, c'est un peu ce que disait Umberto Eco qui vient de mourir. Il y a cette phrase que l'on répète depuis ce matin sur les radios qui est très juste: celui qui ne lit pas n'aura que sa vie, et celui qui lit aura 5000 ans puisqu'il aura lu tout ce qui s'est passé depuis 5000 ans et au-delà. Donc il faut lire pour avoir plusieurs vies et pour être, au moins quand on lit et quand on écrit, immortel. Quand je me mets le matin devant mon bureau, devant mon cahier, j'attends parfois une demi-heure, une heure que les premiers mots arrivent, et je dis toujours que je descends dans mes mers profondes. Dans mes mers profondes, là je vais retirer des émotions, des souvenirs, des choses qui me sont essentielles pour vivre. On va chercher le meilleur et le pire, mais aussi quelques monstres qui sont au fond de nous, hein. Des fantasmes, des monstres, des créatures diaboliques, parce qu'au fond de nous, dans ce qu'on appelle l'inconscient et le subconscient, il y a tout ça. Il y a la beauté et il y a la monstruosité. Et il faut écrire l'essentiel de ce que nous sommes. Quand on écrit, on va vers l'essentiel de nos émotions, la beauté et la monstruosité. Thank you.